Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un vrai symbole parisien, l'appartement haussmannien.
Bonjour, oui, tout à fait. Un symbole avec son charme bien particulier.
On a tous en tête le fameux trio moulure, parquet, cheminée. C'est vraiment synonyme de cachet. Mais la question, c'est comment on fait cohabiter ça avec nos vies modernes quoi, et nos attentes de confort.
C'est exactement ça le défi. Ces appartements construits, pour la plupart entre 1850 et 1914, ils ont une identité très forte.
C'est clair.
Des volumes généreux, une belle hauteur sous plafond, souvent ces pièces en enfilade, vous savez, qui communiquent directement. Et puis bien sûr, tous ces ornements qui font leur charme.
Et donc, en s'appuyant sur l'expertise en rénovation dans ce contexte très spécifique, notre but aujourd'hui, c'est un peu de décrypter comment on peut préserver cette âme tout en répondant aux besoins actuels. Parce que bon, derrière le charme, il y a aussi des aspects moins pratique, n'est-ce pas?
Oui, effectivement. Mais l'agencement d'origine, il correspond rarement à nos standards d'aujourd'hui.
Ah, ça.
On trouve souvent la cuisine tout au fond de l'appartement, une seule salle de bain, pas toujours bien placée, des longs couloirs un peu sombres qui mangent des mètres carrés.
Oui, beaucoup de place perdue.
Voilà. Et puis, un manque criant de rangement. Et bien sûr, l'isolation thermique et acoustique qui est souvent à revoir.
Donc la première étape, j'imagine, c'est souvent de réorganiser l'espace. On entend beaucoup parler d'ouvrir, de faire tomber des cloisons pour avoir de grands séjours lumineux. Mais est-ce qu'on risque pas de perdre un peu l'intimité, la structure même de l'appartement ?
C'est tout l'équilibre à trouver, en fait. L'ouverture, c'est vrai, c'est très demandé. Surtout pour rapprocher la cuisine de la pièce à vivre. Fini la cuisine isolée au fond.
Oui, ça c'est clair.
Mais il faut quand même essayer de garder une séparation assez nette entre la partie jour et la partie nuit. Ça reste important. Et puis on cherche aussi à ajouter des points d'eau, des WC, peut-être une buanderie si on peut.
Et le rangement ? Le nerf de la guerre à Paris.
Exactement. Le rangement, c'est crucial. Alors, on exploite tout. Les alcôves à côté des cheminées pour faire des bibliothèques, la hauteur sous plafond pour des dressings sur mesure. Chaque recoin compte.
Parlons un peu de ces éléments iconiques. Le parquet, par exemple. Souvent, ce fameux point d'ombre gris. Qu'est-ce qu'on fait quand il est un peu fatigué?
Alors, il y a plusieurs options. Idéalement, on restaure. On change quelques lames, on ponce, on vitrifie. Ça, c'est pour garder l'authenticité.
D'accord.
Mais parfois, le support en dessous est trop abîmé ou le sol n'est pas plat. Là, il faut parfois envisager un remplacement complet.
Ah oui, carrément.
Oui. Et souvent, on en profite pour refaire une chape. Vous savez, cette couche pour aplanir et isoler un peu mieux phoniquement. C'est souvent un point faible dans l'ancien, le bruit.
On peut aussi choisir de mixer parquet et carrelage, par exemple, pour délimiter une cuisine ouverte. C'est assez moderne comme approche.
Et la cheminée en marbre ?
Celle qui trône dans le salon avec son grand miroir, le trumeau. Elle ne sert plus à grand-chose aujourd'hui, non?
On la garde très souvent dans le séjour ou la chambre principale, vraiment pour le cachet. C'est un élément fort.
Oui, c'est vrai.
Mais la déposer, surtout dans les autres pièces, où, si elle est en mauvais état, ça libère de la place et surtout, ça libère le conduit. Et ça, c'est précieux pour passer une VMC et la ventilation, qui devient indispensable si on isole.
Ah, astucieux!
Ou pour une hotte de cuisine. C'est une bonne opportunité. Les anciens poêles prussiens, qui sont moins imposants, posent un peu les mêmes questions.
Et les moulures, alors? J'imagine que dès qu'on bouge une cloison ou qu'on passe des fils électriques, c'est compliqué pour faire des raccords propres.
Oui, c'est délicat. On peut faire refaire des moulures à l'identique par des staffeurs, mais bon, ça a un coût. Sinon, il existe des modèles neufs dans plein de styles. Parfois, une solution plus simple, c'est de créer un faux plafond. Ça permet de cacher les câbles, d'intégrer des spots sans toucher aux belles moulures du périmètre.
Malin.
Et la grande hauteur sous plafond, ça c'est un super atout. On peut faire des mezzanines dans les chambres d'enfants ou des rangements qui montent jusqu'en haut. Mais attention, dans un couloir étroit, ça peut faire un effet puits. Là, on peut jouer avec la couleur ou abaisser un peu le plafond pour que ce soit plus agréable.
Passons aux aspects techniques, ceux qu'on voit moins mais qui sont essentiels. La plomberie, par exemple. Si on veut créer une deuxième salle de bain.
Ah, ça c'est un point critique. L'emplacement des nouvelles salles d'eau dépend beaucoup des colonnes d'évacuation des eaux usées qui existent déjà dans l'immeuble.
Il faut être à côté, en gros. Hein.
Il faut respecter une pente pour que l'eau s'écoule bien, environ 1 à 2 cm par mètre. Donc, ça limite la distance. Il existe des pompes de relevage pour s'éloigner un peu plus, mais bon, ça fait du bruit, ça demande de l'entretien, et parfois la copropriété refuse. C'est une solution de dernier recours, disons.
D'accord. Et pour le confort thermique et acoustique, comment on isole sans perdre trop d'espace et sans abîmer les murs avec leurs moulures?
En général, on isole par l'intérieur, avec des isolants qui sont performants mais pas trop épais pour limiter la perte de place. Et puis, il y a les fenêtres. Le double vitrage, c'est quasi incontournable aujourd'hui, pour le confort et les économies d'énergie.
Oui, logique.
Mais là, attention, hein, il faut absolument respecter l'esthétique de la façade haussmannienne. Le style, la couleur, les petits bois. Il faut souvent des autorisations de la copropriété et parfois même l'avis des architectes des bâtiments de France, les ABF, si on est dans une zone protégée. Il existe des fenêtres style haussmannien, mais elles sont plus chères, forcément.
Et la VMC dont vous parliez, c'est facile à installer dans ces conditions ?
Facile, non. C'est même assez complexe de bien ventiler après avoir isolé, sans tout dénaturer. Mais c'est indispensable pour un air sain. Simple flux, double flux, ça demande une vraie réflexion.
Bon, et pour finir, l'esthétique. Comment on fait le lien entre le charme de l'ancien et une déco plus actuelle ?
Alors, trouver de la robinetterie ou des sanitaires d'époque qui fonctionnent bien, c'est quasiment mission impossible. L'idée, c'est plutôt d'intégrer des éléments qui parlent bien avec l'existant.
Comme quoi, par exemple ?
Ben, par exemple, des carreaux de ciment. D'ailleurs, on en trouvait déjà à l'époque haussmannienne. À beau papier peint, bien choisi, ça revient très fort en ce moment. Des couleurs qui vont souligner les volumes. En fait, l'important, c'est la cohérence, l'harmonie générale.
Donc, en résumé, rénover un haussmannien, c'est un vrai travail d'équilibriste.
C'est exactement ça. Un art de la composition. Il faut valoriser cet héritage architectural, les volumes, les moulures, le parquet, les cheminées, tout en intégrant les fonctions et le confort qu'on attend d'un logement aujourd'hui. Un agencement pratique, des rangements, une bonne isolation, plus de salles d'eau.
Ce qui amène peut-être une dernière question, une réflexion. À force de vouloir tout optimiser, tout moderniser, intégrer toutes les commodités, est-ce qu'on ne risque pas un peu de standardiser ces appartements, d'effacer justement cette âme haussmannienne qu'on recherche tant au départ? Où est-ce qu'on met le curseur, en fait, pour que la modernisation ne vire pas à la dénaturation?
C'est toute la question. Et la réponse appartient un peu à chacun, selon sa sensibilité et son projet de vie.